Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce mardi 5 novembre, le Premier ministre australien est de retour après le sommet de l'ASEAN à Bangkok. C'est la question de combattre la sécheresse qui va dominer l'agenda du gouvernement. Le trésorier fédéral rejette toute modification du cadre des taux d'intérêt australiens avant la réunion mensuelle de la Reserve Bank ce mardi. Et puis le compte à rebours avant la course mythique de la Melbourne Cup cet après-midi. Le Premier ministre australien Scott Morrison doit se concentrer sur la prochaine série de mesures du gouvernement fédéral concernant la sécheresse après son retour de la Thaïlande. Le Parlement va voter une loi qui prévoit des paiements pour les personnes touchées par la sécheresse et le gouvernement va aujourd'hui entamer des consultations face à face pour définir le plan de financement du Fonds pour la sécheresse. La première des 14 réunions sur le sujet se tiendra dans la ville de Charters Towers, dans le nord du Queensland. La ministre de l'Agriculture, Bridget McKenzie, était sur Sky News et elle a déclaré que le gouvernement s'engage à être flexible pour aider ceux et celles affectés par la sécheresse.
The legislation that's sitting before the Senate next week will make sure that the minister can make a rule at any time in the future to make additional support available to those farmers doing it tough. And we as a government have made that clear. That we're prepared to do that for as long as needed.
Alors que la Reserve Bank se prépare à se réunir ce mardi pour décider si les taux d'intérêt seront à nouveau réduits, le trésorier fédéral a annoncé qu'il n'allait pas insister pour que la banque se fixe un nouvel objectif d'inflation. La Reserve Bank applique actuellement une politique monétaire visant à maintenir le taux d'inflation entre 2 et 3 % au cours du cycle économique. Cet objectif est en place depuis les années 90. Le taux d'intérêt officiel a été réduit 3 fois cette année et se situe actuellement à 0,75 %. Adam Bent, député des Verts de Melbourne, critique les récents commentaires du Premier ministre Scott Morrison sur les manifestations contre le changement climatique. Scott Morrison a signalé de nouvelles mesures visant à réprimer certains types de manifestations dans le pays contre le changement climatique et l'industrie minière. Adam Bent a déclaré qu'il y avait une urgence concernant le climat.
Scott Morrison can try and crack down on protests, but that's the equivalent of turning off the smoke alarm when your house is on fire. I mean, we've got to stop shooting the messenger. You can agree or disagree with the climate protesters' tactics, but the message is crystal clear. The message is that we are in a climate emergency. We now have thousands of scientists from all around the world backing that point up. You can't argue with the laws of physics and chemistry.
Deux anciens chefs des forces aériennes en Australie appellent à un examen urgent des capacités de défense du pays afin de contrer une menace potentielle venant de la Chine. Les maréchaux de l'armée de l'air, Leo Davis et Jeff Brown, à la retraite, ont déclaré au journal The Australian que l'Australie pourrait avoir besoin d'acquérir un bombardier stratégique, des drones et des missiles balistiques pour protéger les routes de navigation et mieux défendre le pays. Jeff Brown prévoit également que l'armée de l'air dépassera l'armée de terre en tant que branche principale des forces de défense australiennes. Le sommet de l'ASEAN a pris fin à Bangkok hier, mais les pays membres n'ont pas signé un accord de libre-échange asiatique repoussé à 2020 que l'Inde ne rejoindra pas. L'Inde craint que ses marchés ne soient inondés de produits chinois dans le cadre de l'accord. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Liu Yucheng, reste optimiste.
15 countries have decided to move ahead first by the end of the year. We've already finished the text and most of the outstanding issues have been resolved and probably will be completely sorted out by the end of the year. It is no problem for the 15 countries to sign the agreement next year. Whenever India is ready, they are welcome to get on board.
Le président français Emmanuel Macron est en Chine, invité d'honneur de la foire des importations à Shanghai. Reportage Stéphane Lagarde pour Radio France Internationale.
C'est l'un des thèmes sur lesquels Paris et Pékin partagent leur agenda. C'est aussi l'une des priorités de cette deuxième visite du président français en Chine. La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité sera à nouveau au menu des discussions entre Emmanuel Macron et les officiels chinois. Elle est aussi un enjeu commercial important pour les entreprises européennes et françaises présentes sur le marché chinois avec des défis à la taille d'un pays continent. François Jenny, directeur chaîne d'affaires chez Suez NWS.
C'est des problématiques liées à l'urbanisation et donc à ces mégacités. C'est des problématiques en termes de ressources en eau, que ce soit des eaux usées, que ce soit des eaux industrielles, des effluents industriels, aussi tout ce qui touche au traitement des boues. Concrètement, ça va donner un petit coup de pouce à notre développement dans le sens où on pourra communiquer sur nos solutions. Maintenant, ça ne va pas changer non plus drastiquement notre développement en Chine et on va continuer à travailler dur en Chine. Mais c'est sûr que c'est un petit coup de pouce, mais on ne va pas signer 25 contrats à la fin de la visite.
Des contrats, mais surtout des contacts pour des projets de long terme. Français et Chinois travaillent sur un texte commun avant le Congrès mondial de la nature, Marseille en juin 2020 et avant la COP15 de la biodiversité en Chine à l'automne prochain.
D'autres nouvelles de la semaine en France tout à l'heure avec Émile Matasso. 41 migrants retrouvés en vie dans un camion frigorifique en Grèce. Le camion a été intercepté par la police. La plupart des personnes cachées dans le camion sont d'origine afghane. Joël Bronner est le correspondant de RFI en Grèce.
C'est un banal contrôle routier, non loin de la frontière turque, sur une autoroute en direction de la ville grecque de Thessalonique, qui est à l'origine de la découverte de 41 migrants dissimulés dans un camion frigorifique. Celui qui est soupçonné d'être le passeur, un Géorgien qui conduisait le camion, a été arrêté. Cette découverte rappelle celle, fin octobre, du corps sans vie de 39 Vietnamiens dans un véhicule retrouvé lui en Angleterre, dans une zone industrielle proche de Londres. En raison d'un regain de réfugiés en provenance de Turquie depuis plusieurs mois, la Grèce est redevenue cette année, pour la première fois depuis 2016, la porte d'entrée principale des demandeurs d'asile en Europe. Une situation qui a en partie poussé Athènes à adopter ces derniers jours une nouvelle loi visant à rendre plus difficile l'obtention de cet asile, avec pour objectif de multiplier les renvois à l'avenir. Pour l'instant, 34 000 demandeurs d'asile s'entassent dans des conditions largement insalubres, dans des camps situés sur 5 îles de la mer Égée, comme à Lesbos ou à Samos.
Et au Vietnam, les autorités du pays ont arrêté 8 personnes en connexion avec la mort de 39 personnes retrouvées dans un camion en Angleterre récemment. Les suspects sont accusés de trafic humain. La police britannique a confirmé que les 39 morts étaient d'origine vietnamienne. Le chef du parti du Brexit, Nigel Farage, a déclaré que son parti pourrait contester toutes les circonscriptions d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles lors des prochaines élections en Grande-Bretagne le 12 décembre prochain. Nigel Farage a annoncé qu'il présenterait un candidat dans toutes les circonscriptions de ces régions, à moins que le Premier ministre Boris Johnson n'abandonne son nouvel accord de Brexit de quitter l'Union européenne. Nigel Farage a déclaré que la proposition de Boris Johnson ne constituait pas un bon Brexit, que le Brexit ne se déroulerait pas correctement sans son parti. Les négociations vont durer quelques 3 ans encore avec l'Union européenne, selon lui.
Here is the problem. With the proposition that Boris Johnson is putting to the British people, it is not Brexit. It's not Brexit. It's a sellout. It is a sellout. There will be no Brexit without the Brexit Party. Of that, I'm certain.
Et puis le député travailliste Lindsay Hoyle est devenu le nouveau speaker de la Chambre des communes. Il succède à John Bercow. À un an des élections présidentielles aux États-Unis, l'Amérique plus divisée que jamais. Et Donald Trump pourrait gagner ces élections face à n'importe quel candidat démocrate, comme nous l'explique Anne Corpé pour RFI.
Certains États comptent plus que d'autres pour accéder à la Maison Blanche. C'est grâce à sa victoire dans le Midwest agricole, dans la ceinture industrielle autour des Grands Lacs et en Floride que Donald Trump a été élu en 2016. Et il reste très compétitif dans ses États clés, surtout si c'est Elizabeth Warren ou Bernie Sanders qui sortent gagnants des primaires démocrates. Selon le sondage du New York Times, le président aurait ainsi 6 points d'avance dans le Michigan face à la sénatrice du Massachusetts et l'emporterait en Floride et en Arizona contre l'élu du Vermont. La Caroline du Nord lui reste acquise, même s'il est opposé au plus centriste Joe Biden. Au niveau national, le président reste de loin le candidat préféré de l'électorat blanc non diplômé, avec au moins 24 points d'avance, et ce, quel que soit le candidat de l'opposition. Toujours selon cette enquête, les démocrates ne doivent pas se fier aux bons résultats qu'ils ont obtenus lors des dernières élections de mi-mandat. Près de 2/3 des électeurs ayant voté Donald Trump en 2016 et qui ont choisi d'élire un démocrate au Congrès 2 ans plus tard déclarent qu'ils souhaitent offrir un second mandat au président.
Le sommet de la COP25 sur la lutte contre le changement climatique a été annulé au Chili pour des raisons de sécurité suite aux manifestations dans le pays. Le sommet aura bien lieu en décembre prochain à Madrid, en Espagne, comme l'explique François Musso pour RFI.
Pour se préparer à recevoir un sommet aussi important que celui du climat, une ville a besoin de beaucoup de temps, jusqu'à 2 années. Madrid va devoir le faire en seulement 1 mois. Et ce, avec toutes les difficultés que suppose un tel défi logistique. Au total, ce seront 25 000 personnes pendant 10 jours. C'est la raison pour laquelle la ministre de la Transition climatique, Teresa Rivera, a immédiatement saisi les administrations locales, la région et la municipalité de Madrid pour travailler ensemble. Pour autant, malgré le peu de temps disponible, la capitale espagnole dispose de sérieux avantages. Les transports publics sont de bonne qualité, la sécurité est aussi un des points forts de la ville. Quant à la capacité hôtelière, elle est de 90 000 lits et le patronat hôtelier a assuré être en mesure d'absorber l'énorme quantité d'assistants au sommet. Autre atout, le parc d'IFEMA, qui héberge ce genre de gros événements, situé proche de l'aéroport et assez vaste pour accueillir aussi bien les réunions et les négociations officielles que les rencontres de scientifiques ou des ONG. Quant au nouveau maire, José Luis Almeida, il se montre enthousiaste et voit ce sommet comme une revanche sur les Jeux Olympiques, la capitale ayant été une candidate malheureuse depuis 2008.
Enfin, la disparition à l'âge de 80 ans de la chanteuse et actrice française Marie Laforêt. Son portrait avec Elisabeth Le Quéré pour RFI.
Fragile, douée, chanteuse accomplie, actrice émérite, Marie Laforêt était tout cela. Sa carrière est à l'image de sa beauté, fascinante et déconcertante. La jeune ingénue aux yeux verts est lancée au cinéma en 1960 face à Alain Delon dans Plein Soleil. C'est son rôle le plus remarquable et son meilleur film. Suivront quelques autres, La fille aux yeux d'or ou encore Marie Chantal contre Dr K de Claude Chabrol. Mais plutôt que de valoriser son incontestable talent de comédienne, elle délaisse le 7e art pour la chanson et c'est là qu'elle rencontre le succès. Marie Laforêt laisse derrière elle un répertoire foudroyant, pas moins de 14 albums studio, elle qui chantait en français mais aussi en espagnol, en portugais et en italien. Ses plus grands tubes resteront Les Vendanges de l'amour, incunable de la variété française, et Viens sur la montagne.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel.
Voilà donc hommage à Marie Laforêt qui a disparu à l'âge de 80 ans. La Melbourne Cup, c'est ce mardi, marquant le plus grand jour des courses hippiques du printemps en Australie. Plus de 20 chevaux se disputeront le prix le plus convoité. Finch est le favori actuel ainsi que Mère de Glace. Pendant ce temps, les manifestants encouragent les spectateurs à dire non à la Melbourne Cup pour des raisons liées au bien-être des chevaux. La maire de Melbourne, Sally Capp, a appelé à l'application de règles plus strictes concernant le traitement des chevaux.
It's about actually improving what we've got and making sure that we are taking care of those magnificent animals that are at the centerpiece of this event. And we can do that, we should be doing that and we must do that.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, puff maximal de 25 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 18, Hobart 17, Canberra 20, Sydney 20 également, Brisbane 31, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 5 novembre, le Premier ministre australien est de retour après le sommet de l'ASEAN à Bangkok et c'est la question de combattre la sécheresse qui va dominer l'agenda du gouvernement. Le trésorier fédéral rejette toute modification du cadre des taux d'intérêt australiens avant la réunion mensuelle de la Reserve Bank ce mardi. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.